Il est 6h18, bienvenue sur France Inter.
France Inter.
Catherine Boulet.
Éric Delvaux.
Le 5-7.
Votre première invitée ce matin, Éric Delvaux, c'est le politologue Stéphane Rosès, président de CAP, Conseil, Analyse et Perspective.
Bonjour Stéphane Rosès.
Bonjour Éric.
66% pour Emmanuel Macron, c'est une très nette victoire. Pour autant, quelle difficulté va rencontrer Emmanuel Macron, même avec ses 66%, pour la perspective des législatives ?
Eh bien, ça a été dit par beaucoup, effectivement, Éric, asseoir une légitimité. Car il en a été conscient, il l'a dit hier, d'ailleurs devant la foule assemblée, devant la pyramide du Louvre, avec lui, il est conscient que ceux qui ont voté pour lui par adhésion, environ un quart des Français, ce n'est pas suffisant pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée, que les Français d'ailleurs regardent avec réticence. C'est ajouté à ce vote d'adhésion un vote de défense de la République qui a été majoritaire face à Marine Le Pen et aussi sans doute de renouvellement de la vie politique. Donc c'est dans le mouvement qu'il va devoir construire une légitimité à un phénomène absolument inédit. On dit le peuple français est politique, mais seule la France donne un président élu au suffrage universel direct aussi jeune, hein, 39 ans, inconnu des Français il y a 3 ans, montant un mouvement en marche il y a 13 mois, lui-même pas élu, c'est la deuxième première historique, troisième première historique, en prétendant, comme son adversaire d'ailleurs Marine Le Pen, recomposer la vie politique en dehors du clivage gauche-droite.
Ça dit, je reste sur la perspective des législatives, il y a tout de même entre l'abstention, les votes blancs, les votes nuls, près de 15 millions de Français, un Français sur trois, qui n'a pas choisi entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Oui, parce que le paysage du premier tour nous le montrait, au clivage gauche droite de nature sociale, s'est substitué un autre clivage que représente Emmanuel Macron élu et son adversaire Marine Le Pen, qui est un clivage de nature nationale, existentielle, identitaire. Au fond, Emmanuel Macron a construit cette dynamique incroyable autour de l'idée, en rupture avec ses prédécesseurs, de dire « Le problème de la France, ce n'est pas vous. Vous, vous êtes géniaux. Vous avez un potentiel. On va se mettre en marche. Le problème, c'est le système politique, les institutions politiques qu'on va ensemble renouveler. » Et donc, ce mouvement est suffisant pour l'emporter. Il n'est pas suffisant pour entraîner l'ensemble nettement majoritaire de ceux qui restent quand même attachés à centralement la question sociale et puis qui voient arriver Emmanuel Macron éberlué, comme hier, tous nous avons vu ces très belles images et on se demande, l'avenir est ouvert, il est possible, mais qu'est-ce que va en faire Emmanuel Macron ?
Mais est-ce que cette recomposition de la classe politique passe, comme le dit Marine Le Pen, entre d'un côté les patriotes et de l'autre les mondialistes ? Ça se résume à ça ?
Non, justement, c'est ça qui fait la difficulté. Ça a été le premier sujet. Un pays, un peuple, c'est comme un individu. Quand il est interpellé dans ses conditions matérielles et sociales, au fond, il y a une question première qui vient, c'est mon identité, quel est mon rapport aux autres, quel est le rapport de la France à l'Europe et au monde. Et c'est illustratif qu'il ait voulu, dans cette procession très solennelle hier, arriver avec l'hymne européen. Donc, effectivement, il y a dans notre pays, si politique depuis des siècles, ce double clivage qui se superpose. Et aux législatives, nous allons avoir des candidats de ce double clivage.
34% pour Marine Le Pen, est-ce que c'est une défaite pour le Front National ?
Non, ce n'est pas une défaite. C'est une défaite par rapport à ce qu'elle aurait pu penser. C'est une défaite au fait qu'on avait le sentiment qu'il y avait à peu près un sans-faute. Son premier tour avait été empêché par la dynamique Mélenchon qui, avec son tour patriotique de dernier instant, l'empêche de passer devant Emmanuel Macron. Un débat d'entre deux tours cataclysmique pour elle, mais néanmoins, sur la période, un tiers de voix de plus qu'à la précédente présidentielle. Emmanuel Macron l'a dit hier, il a voulu aussi respecter les électeurs qui ont voté Front National. Il a dit « J'ai compris que certains d'entre eux, c'est un vote par adhésion pour que la nation les protège. Je veux qu'à la fin de mon mandat, il n'ait plus de raison de voter pour les extrêmes. »
Oui, ça, ce n'est pas gagné, puisqu'il y a tout de même une bonne partie des électeurs pour Macron à ce second tour qui ne voteront pas pour lui pour les législatives.
Oui, justement. Et là, reste ouvert la question de comment vont se passer ces législatives. Habituellement, c'est le nouveau Premier ministre qui conduit les législatives. L'intuition qu'on peut avoir, c'est qu'Emmanuel Macron, tel Bonaparte, ou plus exactement Napoléon, dans les batailles difficiles, voudra lui-même conduire la bataille.
1848.
De ce point de vue-là, il a raison. Ce sera la quatrième nouveauté historique. Emmanuel Macron doit construire sa légitimité et l'état de grâce dans le mouvement.
D'ailleurs, pour le profil de Matignon, compte tenu du résultat, quel est le type de profil qu'Emmanuel Macron peut envisager ?
Si c'est lui qui est à la fois le président en mouvement et en première ligne, d'un certain point de vue, il peut prendre un premier ministre technique, compétent et moins politique. Car le problème des politiques, c'est que ça renvoie au passé, quelle que soit la qualité de ses politiques. Or, il doit faire vite. Il a dit renouvellement de la vie politique, institution, nonobstant ses problèmes de fond. Donc, ça, si c'est bien lui en première ligne, qui est sans doute nécessaire pour obtenir une majorité absolue dans les circonscriptions, le choix du Premier ministre peut être la compétence, un technicien. Par contre, très important que dans les ministères, dans chaque ministère, il y ait des personnalités fortes, parce que dans le quinquennat François Hollande, c'était souvent la technostructure, la haute administration qui avait la main sur des ministres qui étaient souvent jeunes et pas forcément maîtrisant politiquement leur dossier.
Il ne sera pas omniprésent dans tous les dossiers s'il accède à l'Élysée. Maintenant, c'est confirmé. Donc, il ne sera pas un président omniprésent dans tous les dossiers techniques.
Oui, c'est toujours la position qu'il a défendue. Il critiquait François Hollande pour s'occuper de l'accessoire et pas s'occuper de l'essentiel, le régalien, la France dans l'Europe et la vision. Mais néanmoins, pour gagner les législatives, il va devoir être en première ligne, mais sa gouvernance risque effectivement de s'assurer que l'action gouvernementale va dans le sens de son contrat avec les Français.
Record d'abstention depuis 1969, record des bulletins nuls, record des bulletins blancs. Que feront ces abstentionnistes lors des législatives ? Est-ce qu'on peut décrypter ce vote ou ce non-vote ?
Eh bien, à la fois, ils seront plus tentés d'aller voter parce qu'il y aura dans l'offre politique de premier tour, en tout cas, matière à. Et en même temps, dans la tradition de la Ve République, comme l'élection présidentielle est la clé de voûte des institutions, normalement, le pays laisse, y compris par son abstention, le nouveau président élu avoir une majorité, nonobstant ce que disent les sondages et les chiffres qu'effectivement vous rappelez.
Mais qui a refusé de choisir hier ?
Ceux qui ont refusé de choisir, c'est au fond...
Dupont-Aignan, les électeurs de Dupont-Aignan, les électeurs de Mélenchon ?
Je crois très certainement, on va voir précisément ce que nous disent les instituts qui ont bien travaillé, ils vont nous dire les choses précisément. Je dirais, mais en un, les abstentionnistes de toute façon de premier tour, en deux, l'électorat Mélenchon... clairement, en trois, une partie de la droite. Et puis, on a vu que Debout la République, en tout cas chez ses cadres, avait été divisée.
Un mot sur la gouvernance. On a vu hier soir un président élu presque mitterrandien dans sa marche, dans sa démarche solitaire vers les pyramides. Cette solennité affichée, cette verticalité, c'est la fin du président normal.
Oui, c'est la fin du président normal et c'est là où le cas Macron est absolument incroyable d'intelligence. Au fond, les trois candidats qui auront marqué cette campagne, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, puisent chacun explicitement dans le passé, dans l'histoire de France. Et donc, il y a la symbolique politique dont parlait Emmanuel Macron, il parlait même de mystique en politique, qui fait qu'il est à la fois l'homme des start-up, l'homme de l'horizontalité économique, l'homme de l'innovation, l'homme du numérique, de la digitalisation de l'entreprise, du rapport à l'Europe et au monde, et en même temps, parce qu'il est cultivé, parce qu'il connaît l'histoire, parce qu'il connaît la philosophie, il sait qu'il y a un imaginaire français. Et comme Mélenchon, Le Pen, alors qu'il est dans la modernité, il puise là-dedans, tout était dit hier. Derrière lui, la pyramide paye du Louvre, le carrousel des troupes napoléoniennes, la Concorde, là où on a coupé la tête au roi, l'Arc de Triomphe et le quartier d'affaires de la Défense.
Et il le sait, il le dit, je n'aurai pas d'état de grâce. Le fait qu'il veuille faire faire passer la loi travail par ordonnance dans la chaleur estivale, est-ce que ça va être un atout pour lui ou est-ce qu'on va le lui reprocher pendant longtemps ?
Ça va être un atout si les équilibres sont respectés, ce qu'il a annoncé, qui a fait son succès. Pour lui, il n'y a pas de contradiction entre la compétitivité des entreprises, le modèle social, le fait de donner de la souplesse à l'organisation du travail et de passer d'une protection du statut social à celui de l'individu dans un accompagnement d'un État qui est à la fois stratège sur les grandes visées, mais qui laisse les acteurs et le dynamisme au tissu économique.
Parole ce matin de Stéphane Rosès, le président de CAP, Conseil Avenir et Perspectives. Merci.
Merci bien.